Vous écoutez, on lit pour vous.
Dormir au chaud dans un refuge, mais sur une chaise. Un texte de Marco Fortier, paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir. Le soleil se couche et l'air glacial devient plus mordant. France Payan grille une cigarette en cette fin de journée hivernale. « J'ai de la misère avec le froid, ça me pogne les os », dit la femme de 35 ans en grelottant. Elle s'apprête à passer son deuxième hiver dans la rue, plus précisément en camping forcé le long de la rue Notre-Dame à Montréal. Nous la rencontrons devant le refuge d'urgence de l'organisme Cap Saint-Barnabé sur l'avenue Bennett dans le quartier Hochelaga à deux pas du plus grand campement de personnes itinérantes de la métropole. Une trentaine de personnes viennent passer la nuit ici, dans ce local situé au sous-sol d'une église. Elles doivent dormir sur de simples chaises de cafétéria, dans une grande salle commune qui sent le café et les chaussettes humides. France Payan passe parfois la nuit ici, mais elle préfère la vie en camping, même en plein hiver. « J'aime mieux être dans ma tente parce que parfois j'ai la mèche courte. Je me connais, je ne veux pas avoir de chicane. » On n'a pas le choix d'endurer quand on vient ici. Il y a des journées où je suis moins capable que d'autres, raconte la jeune femme enveloppée dans son long manteau rouge. Elle aimerait trouver un endroit où dormir tranquille, bien au chaud, parce que le froid devient difficile à supporter. Elle a eu des engelures aux mains en 2024. Elle a perdu un ongle 4 fois. Elle a moins de dextérité avec sa main droite. Mais France Payan ne se plaint pas. Elle a la couenne dure. J'essaie de voir le positif. C'est sûr que je ne suis pas rendu où j'aurais voulu être quand j'étais plus jeune. Tu sais, la petite maison, la petite clôture blanche, la voiture, ça ne va pas toujours bien, mais en général, ça va quand même bien. Je ne suis pas aussi bas que j'étais avant. Il y a de l'amélioration, pareil. Une crise qui prend de l'ampleur. Des France Payan, il y en a des centaines à Montréal, des milliers même. La crise de l'itinérance frappe partout, dans tous les quartiers. La ville vient d'annoncer l'ouverture de 500 places supplémentaires en refuge d'urgence d'ici Noël. Au total, 3000 places seront alors offertes dans des haltes chaleurs de la métropole. Les organismes d'aide aux personnes itinérantes se réjouissent de cet effort commun de la Ville et du gouvernement du Québec, mais ils préviennent que c'est insuffisant. Des centaines de personnes resteront à la rue malgré l'augmentation importante du nombre de places en refuge d'urgence. On refuse 40 personnes par soir, et je suis sûr qu'on va en refuser malgré les places supplémentaires qui seront créées. « Ça va être encore plein partout », dit Marjolaine Despard, directrice générale adjointe du Cap Saint-Barnabé. Cet organisme est une véritable bouée de sauvetage pour les personnes vulnérables du quartier Hochelaga. Il offre un total de 350 places dans 3 centres d'hébergement d'urgence et 4 maisons de logement social. Une halte chaleur hivernale offrant 60 places s'ajoutera dans l'ancien couvent Saint-Émilie, rue Adam, grâce au financement accordé par la ville et par le gouvernement Legault. Le Cap Saint-Barnabé prépare et distribue aussi 1200 repas par jour. Ce n'est pas tout. Une 60aine de personnes sont hébergées dans des dortoirs, munis de vrais lits, au refuge de l'avenue Bennett. Certaines habitent ici depuis des années. C'est leur maison. Je suis en sécurité. Les pensionnaires du refuge, dont le tiers sont des femmes, sont enchantés. Gladys Julien vit ici à temps plein depuis environ 1 an. Cette femme de 43 ans n'arrivait pas à payer son loyer de 1 200 $ par mois en faisant de petits boulots à gauche et à droite. Il ne lui restait plus grand-chose pour se nourrir, se vêtir et payer ses déplacements en bus et en métro. Elle loge dans un dortoir où cohabitent 14 femmes, le temps de terminer son secondaire et de faire une formation de préposé aux bénéficiaires. Elle compte les dodos d'ici à l'obtention de son diplôme dans 6 mois. Elle prévoit déjà de travailler à 28 $ l'heure, ce qui lui permettra de louer un logement d'une chambre dans le quartier. Valérie Chartrand, elle, est arrivée au refuge il y a un peu moins d'une semaine, après être sortie d'une relation de merde avec un gars méchant. Elle pourra rester le temps qu'il faudra pour reprendre ses forces. Ils m'ont donné un lit, ça m'a sauvé. Je suis en sécurité, dit la femme de 37 ans en soupirant. Petits moyens, grandes actions. Les gestionnaires du Cap Saint-Barnabé parlent avec émotion des gens qui fréquentent leur service. Les 225 employés de l'organisme ont été recrutés pour leur désir de contribuer à une mission sociale. Ils font des miracles avec les moyens du bord, mais ils pourraient faire encore plus avec davantage de ressources. Un exemple parmi d'autres, la halte chaleur qui ouvrira bientôt ses portes dans l'ancien couvent de la rue Adam hébergera 60 personnes et uniquement pour l'hiver. Le bâtiment est pourtant vide depuis des années et il se trouve en plutôt bon état. Pas moins de 80 chambres sont réparties sur les 4 étages de l'immeuble. Le Cap Saint-Barnabé a les moyens de louer seulement le rez-de-chaussée. L'organisme manque de personnel pour occuper l'ensemble de l'édifice. Les gens qui trouveront refuge ici dormiront sur des chaises. Il n'y a pas assez d'espace pour y installer des lits, malgré les 80 chambres vides aux étages supérieurs, dit à regret Michèle Patnaude, directrice générale de l'organisme. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a reconnu cette semaine avoir eu un pincement au cœur en constatant que des gens allaient dormir sur une chaise dans plusieurs des 3000 places en halte chaleur qui seront offertes en ville. D'autres haltes chaleur ont des lits. Tout dépend des ressources des organismes qui gèrent ces refuges temporaires, ouverts en hiver. Il n'y a personne qui veut dormir sur une chaise, ni vous ni moi. Mais on vit avec la situation comme elle est actuellement. Est-ce qu'on peut, à plus long terme, travailler sur des haltes chaleur plus dignes, plus pérennes, qui donnent un bon sommeil? C'est ce que j'aimerais faire. C'était « Dormir au chaud dans un refuge, mais sur une chaise », un texte de Marco Fortier paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir.
À quoi sert l'aluminium dans les vaccins? Un texte de Pauline Gravel, paru le 16 décembre 2025 dans Le Devoir. Le secrétaire à la Santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., soutient que l'aluminium, qui est ajouté en quantité infinitésimale dans de nombreux vaccins pour stimuler la protection immunitaire, prédisposerait à l'autisme et aux allergies alimentaires. Persuadé de ce lien, qui n'a pourtant jamais été établi dans le cadre de centaines d'études et de milliards de doses de vaccins administrés, il a convoqué le comité consultatif sur les pratiques d'immunisation, dont il a nommé les membres, pour débattre de l'élimination des adjuvants, comme les sels d'aluminium, dans les vaccins destinés aux enfants. La plupart des vaccins qui sont administrés aujourd'hui ne contiennent qu'un petit fragment de l'agent pathogène contre lequel on désire développer une immunité plutôt que le virus ou la bactérie en entier. Il est toutefois nécessaire d'ajouter un adjuvant à ces vaccins. Un adjuvant est un composé qui va stimuler la réponse immunitaire et induire une immunité plus forte et de plus longue durée. Sans adjuvant, ces vaccins n'induiront qu'une réponse immunitaire très faible, souligne Alain Lamarre, professeur à l'INRS et chercheur à l'Institut Armand Frappier en immunovirologie. Les sels d'aluminium, le plus souvent de l'hydroxyde d'aluminium ou du phosphate d'aluminium, sont utilisés comme adjuvants depuis 90 ans. Ils ont d'abord été intégrés aux vaccins contre la diphtérie et contre le tétanos dès les années 1930. Ils font aujourd'hui partie de la composition de multiples vaccins, dont ceux contre l'hépatite B, l'hépatite A, le virus du papillome humain, VPH, et le pneumocoque. Les adjuvants remplissent leurs fonctions par différents mécanismes. Les sels d'aluminium le font principalement en déclenchant une réponse inflammatoire, explique M. Lamarre. L'inflammation, c'est un peu une sonnette d'alarme pour le système immunitaire. Donc, quand l'adjuvant induit la production de certains médiateurs inflammatoires, comme l'interleukine 1 et l'interleukine 18, par exemple, à l'endroit où le vaccin a été injecté, cela va aider au recrutement de différentes cellules immunitaires. Certaines d'entre elles vont internaliser l'antigène, le fragment de l'agent pathogène, et le présenter à d'autres cellules du système immunitaire, comme les lymphocytes, qui vont produire des cellules T ou des anticorps contre l'antigène. Les sels d'aluminium vont surtout induire la production d'anticorps. Mais pour développer une immunité contre certaines infections, malaria et tuberculose notamment, et le cancer, on veut que le vaccin produise plutôt une immunité cellulaire, soit des cellules T qui vont tuer les cellules infectées ou les cellules cancéreuses. Et c'est l'adjuvant qui va permettre d'orienter la réponse vers la production d'anticorps ou la production de cellules T, précise le chercheur. Les sels d'aluminium améliorent aussi l'immunité en formant un complexe avec l'antigène, ce qui contribue à le stabiliser et à lui permettre de perdurer plus longtemps et ainsi de pouvoir être plus facilement reconnu par certaines cellules du système immunitaire, ajoute-t-il. Une infime quantité de sel d'aluminium suffit pour assurer une bonne efficacité des vaccins. Cette quantité est bien inférieure à celle que l'on trouve dans les aliments et dans l'eau. Même après avoir reçu tous leurs vaccins, les enfants ont absorbé beaucoup moins d'aluminium qu'ils n'en absorbent dans leur alimentation quotidienne, souligne-t-on sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Une multitude d'études et des décennies d'utilisation partout dans le monde ont confirmé l'innocuité des sels d'aluminium présents dans les vaccins. Aucun lien avec l'autisme et les allergies alimentaires n'a été décelé dans le cadre de la surveillance active des autorités sanitaires de tous les pays. Malgré toutes ces données probantes, Robert F. Kennedy Jr. demeure convaincu du contraire. Il a même demandé en juillet dernier à la revue scientifique Annals of Internal Medicine de procéder à la rétractation d'un article signé par des chercheurs danois, dont l'étude, ayant porté sur plus d'un million d'enfants, montrait l'absence de lien entre les sels d'aluminium dans les vaccins et l'autisme, les allergies et les maladies auto-immunes. Bannir l'aluminium rendrait certains vaccins cruciaux complètement inefficaces. On ne peut pas se débarrasser d'un adjuvant qui fonctionne bien et qui est sûr avant d'avoir autre chose de reconnu comme étant une bonne option de rechange, a déclaré à la revue Nature Marco Cavalleri, directeur du Bureau des menaces sanitaires biologiques et de la stratégie vaccinale de l'Agence européenne des médicaments. De nouveaux adjuvants commencent à faire leur apparition, mais il faudra les étudier minutieusement afin de s'assurer qu'ils induisent une amplification des réponses immunitaires tout en réduisant au maximum le risque de réaction nocive, affirme à la revue Nature la professeure à l'École de médecine de l'Université de Washington, à Seattle, Rhea Kohler, qui travaille au développement de vaccins d'adjuvants et d'immunothérapie. C'était « À quoi sert l'aluminium dans les vaccins? » un texte de Pauline Gravel, paru le 16 décembre 2025 dans Le Devoir.
Du déni à la rupture. En sous-titre, les Européens voient que Trump veut vraiment faire exploser l'ordre libéral et démocratique. Un texte de François Brousseau, publié dans Le Devoir du 19 janvier 2026. Pour les Européens, l'heure de la rupture approche. Depuis des mois, devant les coups de boutoir de la Maison-Blanche, un mélange de déni, de division interne, de volonté de ménager la chèvre et le chou, ainsi que le besoin de gagner du temps sur l'Ukraine, avait freiné, voire étouffé, les réactions en Europe. Malgré les couleuvres avalées et après l'échec patent de la stratégie de la flatterie, les attaques réitérées, les trahisons et les insultes en provenance d'outre-Atlantique sont en train de convaincre de plus en plus d'Européens, simples citoyens comme dirigeants, que les États-Unis ne sont plus ni des alliés ni des amis, qu'ils sont en train de changer de nature, que les règles de l'après-1945 entre signataires du pacte transatlantique se dissolvent et qu'une attitude combative prête à aller jusqu'à l'affrontement ne peut plus être évitée. Le crescendo de ce début de janvier est impressionnant. Le 5, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, avertit qu'une attaque militaire américaine ou une tentative d'annexion du Groenland signifierait, citation, « la fin de tout », fin de citation. Entendre, la fin de l'OTAN, la fin de la sécurité d'après-guerre, la fin d'un certain ordre mondial, voire le début d'une guerre. Le 13, à Copenhague, démonstration d'unité entre les leaders du Danemark et du Groenland. Lors d'une conférence de presse conjointe avec la première ministre Frederiksen, le chef du gouvernement du Groenland, Jan Frederik Nielsen, déclare, citation, « Le Groenland n'est pas à vendre. Il ne veut pas être acheté par les États-Unis ou être contrôlé par les États-Unis. Si nous devons choisir maintenant, nous choisissons le Danemark, l'OTAN et l'Union européenne. » Fin de citation. On ne saurait être plus clair. Pourtant, les Groenlandais, à 90 % des Inuits, ont des griefs historiques et justifiés face au colonialisme danois. Malgré leur faible nombre, 58 000 personnes, moins d'un centième de la population québécoise, ils sont fortement tentés par l'indépendance. Les États-Unis ont essayé de jouer sur les divergences entre Copenhague et Nuuk, capitale groenlandaise. On a même évoqué la possibilité d'aller acheter individuellement les Groenlandais un par un. La tentative a fait boomerang et les sondages montrent aujourd'hui une hostilité quasi unanime à l'option américaine. Le lendemain, 14 janvier, réunion à la Maison-Blanche entre le vice-président et le secrétaire d'État face au ministre des Affaires étrangères du Danemark et du Groenland. Au même moment, annonce du déploiement symbolique de soldats des pays de l'OTAN au Groenland. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, la Finlande et les Pays-Bas, citation, « le Groenland sera américain de gré ou de force ». Fin de citation. Au même moment, annonce du déploiement symbolique de soldats de pays de l'OTAN au Groenland. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, la Finlande et les Pays-Bas envoient de petits détachements militaires. Ce déploiement symbolique n'a pas pour but de défendre physiquement l'intégrité de l'île glacée en cas d'attaque militaire américaine. Mais son pouvoir dissuasif n'est pas nul. Pourquoi? Parce que si les forces américaines tentaient de s'emparer de l'île, elles seraient obligées d'ouvrir le feu sur leurs propres alliés. Acte de rupture d'une violence inouïe. Selon l'économiste Paul Krugman, sur son blog Substack, la relance de la guerre commerciale contre l'Europe au motif d'une volonté d'annexion refusée montre que la dissuasion européenne a fonctionné dans ce cas. Citation, Ce n'est ni plus ni moins qu'un cri de frustration de la part d'un dictateur fou qui vient de comprendre qu'il ne peut pas envoyer les Marines, écrit-il. Le 15, déclaration très forte de Donald Tusk, premier ministre d'un pays, la Pologne, où le philo-américanisme est une seconde nature. L'ex-président du Conseil européen fustige le mépris des frontières entre membres d'une même alliance. Citation, « Une tentative de prise de contrôle d'une partie d'un État membre de l'OTAN par un autre État membre serait un désastre politique. Ce serait la fin du monde tel que nous le connaissons. » Fin de citation. Le 17, à Nuuk et Copenhague, manifestation pour la souveraineté du Danemark et du Groenland. Annonce de nouveaux droits de douane américains contre les pays qui ont déployé des forces armées symboliques pour obtenir la reddition de l'île. Et finalement, dimanche 18 janvier, réunion d'urgence des 27 à Bruxelles. L'Union européenne avait pourtant conclu des accords commerciaux avec les États-Unis l'été dernier. Elle vient de comprendre qu'une signature de Trump ne vaut rien et peut être annulée par ses états d'âme et ses impulsions du jour d'après. Les déclarations se durcissent. Le Suédois Ulf Christensen, citation, « Nous ne laisserons pas passer le chantage ». Fin de citation. Le Français Emmanuel Macron, « Aucune intimidation ni menace ne nous influencera ». Devant les 27, la France a appelé à utiliser guillemets, l'instrument anti-coercition, aussi appelé le bazooka commercial de l'Union européenne, qui peut imposer des restrictions aux grandes entreprises technologiques américaines et autres prestataires de services en Europe. L'Espagnol Pedro Sanchez est furieux. Il déclare à la Vanguardia que la menace américaine, citation, doit être prise au sérieux, fin de citation, et que l'annexion du Groenland, citation, ferait de Vladimir Poutine l'homme le plus heureux du monde. Fin de citation. Même l'Italienne et Trumpienne Giorgia Meloni n'en peut plus de faire le grand écart et reconnaît que l'annonce des nouveaux tarifs par Trump est une erreur, même s'il y a peut-être eu, citation, des erreurs de communication. Fin de citation. Le courant, en effet, ne passe plus entre l'Europe et les États-Unis. Mais il ne s'agit pas d'un simple malentendu. Il s'agit de deux mondes qui s'éloignent et ne parlent plus le même langage. Car le Trumpisme, chez lui comme à l'international, veut vraiment faire exploser l'ordre libéral et démocratique. Fin de cette chronique de François Brousseau titrée « Du déni à la rupture » publiée dans Le Devoir du 19 janvier 2026.
Traiter la dépression avec un casque, un texte de Mathieu Perrault, paru le 31 décembre 2025 dans la presse. Les autorités américaines ont approuvé une technologie scandinave de stimulation du cerveau efficace contre la dépression. Le casque de Flow Neuroscience, qui envoie un courant électrique, pourrait être utilisé à la maison. Le traitement part du principe qu'on peut modifier la réactivité des neurones, explique Paul Espérance, psychiatre au CHUM, qui a fait une étude pilote sur la même technologie. On favorise certains liens entre les neurones et défavorise d'autres liens qui sont associés à la dépression. Cette neuroplasticité cérébrale est à la base de tous les médicaments et de la psychothérapie pour traiter la dépression. Flo a indiqué à la presse être en réflexion pour une demande d'autorisation à Santé Canada et dans d'autres pays. Le modèle de casque TDCS vendu sur le site de Flo coûte 459 €, soit 742 $ canadiens. Avant les frais de port et de douane. Je suis ravie de l'approbation américaine, dit Michaela Barbarossi, psychiatre à l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, Neuro, de l'Université McGill. J'ai des patients qui achètent des appareils similaires aux États-Unis ou alors le Souma, qui est plus cher. J'espère que cette technologie sera remboursée par l'assurance maladie. La société finlandaise Souma, dont le casque coûte 599 €, soit 963 $ canadiens, a indiqué à la presse que pour le moment, son casque n'est autorisé au Canada que pour le traitement de la douleur chronique. Le casque de stimulation transcrânienne par courant direct, TDCS, de Flow, a fait l'objet d'une publication en 2024 dans la revue Nature Medicine. La TDCS s'y révélait alors aussi efficace qu'un antidépresseur. Dans l'étude, la TDCS devait être faite par séance de 30 minutes pendant 10 semaines. Les trois premières semaines, il y avait 5 séances par semaine et les 7 autres, 3 séances. Le traitement était supervisé à distance par les chercheurs. Cet essai clinique était en double aveugle, ce qui signifie que la moitié des 174 participants avaient un casque n'envoyant pas de courant dans le cerveau. Les chercheurs ignoraient également qui recevait le traitement et qui recevait le placebo. Pour éviter que les patients sachent qu'ils ne recevaient pas la TDCS et que cela fausse les données, un courant circulait au début et à la fin du traitement placebo. Les seuls effets secondaires négatifs étaient une irritation du cuir chevelu, ce que confirme le docteur L'Espérance. Dépression réfractaire. L'étude pilote du docteur L'Espérance comportait quant à elle plusieurs séances de TDCS par jour à l'hôpital. Le docteur Jean-Philippe Miron, qui a fait l'étude pilote avec le docteur L'Espérance et qui travaille maintenant à l'Université de Californie à San Diego, prépare en ce moment une étude avec plusieurs hôpitaux américains pour évaluer l'efficacité de la TDCS pour les dépressions réfractaires, c'est-à-dire qui ne répondent pas à d'autres traitements. Le docteur L'Espérance travaille aussi sur la stimulation transcrânienne magnétique, RTMS, plus puissante et réservée au cas de dépression réfractaire, laquelle doit toujours être faite à l'hôpital. L'étude de Nature Medicine et l'approbation de Flow par la FDA portent sur les dépressions non réfractaires. La RTMS marche bien, mais elle doit être faite à l'hôpital avec des équipements dispendieux et des techniciens, ça limite l'accès, dit-il. Le docteur Miron indique que la TDCS et la RTMS, comme les électrochocs, font partie de la psychiatrie interventionnelle, alors que la prise d'antidépresseurs relève de la pharmacothérapie. À qui s'adresse ce type de traitement ? La docteure Michaela Barbarossi explique que certains patients hésitent à prendre des antidépresseurs à cause de possibles effets secondaires ou parce qu'ils craignent d'en être dépendants. Ça ajoute une alternative non pharmacologique, dit-elle. Elle ajoute par ailleurs que des essais cliniques TDCS non concluants par le passé ont probablement souffert d'avoir trop de patients réfractaires pour qui la TDCS marche moins bien. Le docteur L'Espérance ajoute que tant la RTMS que la TDCS pourraient être envisageables en cas de rechute d'une dépression traitée. En savoir plus. 11%, c'est la proportion des hommes canadiens qui feront une dépression majeure durant leur vie. 16%, c'est la proportion des femmes canadiennes qui feront une dépression majeure durant leur vie. C'était « Traiter la dépression avec un casque », un texte de Mathieu Perrault, paru le 31 décembre 2025 dans la presse.